Aujourd'hui, confortablement installés le soir sur nos terrasses dans des chaises longues en séquoia poli, nous avons du mal à nous rappeler ces temps de restriction. Il nous semble que nos machines à écrire à mémoire et nos platines laser ont toujours existé, fidèles et savants mentors de nos loisirs organisés. Devant moi, l'arroseur automatique avance régulièrement le long du tuyau que mon père a adroitement disposé en travers de la pelouse. Et de la maison des Carson, sur Woodbine Court, me parvient le tic-tac monotone du robot de leurs enfants qui jouait à la dinette avec Ruby dans le garage. Un avion à réaction fend gaiement le ciel bleu, programmé, qui sait, pour quelques bombardements secrets au Nicaragua, où des populations aux vêtements chamarrés et à la peau sombre résistent encore à nos mots d'ordre. « Au boulot, les gars !» Chaque jour étant pour eux un jour de fête dans leur maison de briques roses, jaunes ou vertes, perchées dans les froides montagnes. Cependant que nous autres tambourinons des doigts en attendant impatiemment que notre café instantané, Buddy Brown ou Dodger Choice, soit récolté et que nous puissions filer au bureau dans nos breaks pour fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles orientations à notre productivité, attendu que sans nous, la consommation d'électricité déclinerait à son nadir. Mais si vous voulez bien arrêter un moment de danser avec le lave-vaisselle, moi, Big George, je vais vous décrire avec force détails affectueux comment tout cela est arrivé et quelle vie menaient nos pionniers dans les années 1860 et 1870. Personne, alors, n'avait même entendu parler des globules bleus, si vous pouvez imaginer une telle chose. L'ambition commune consistait alors à braver les vents dans des plaines alluviales et à défier les loups dans les forêts, à établir son petit fortin malhonnête et à passer les hivers sans perdre plus de 2 orteils par blizzard. Nos procédés industriels étaient appliqués avec le même manque d'enthousiasme. On ne disposait que d'un matériel inadéquat aux mains d'amateurs inexpérimentés qui s'imaginaient que tout le monde aurait dû aussi bien savoir lire un livre que traire une vache. Mais les travaux de forage et de tamisage n'en continuaient pas moins courageusement. Pas le temps d'attendre la venue de Dupont. Les nouveaux immigrants levaient le camp et se hâtaient vers les montagnes, car ils avaient du cran. En général, ils engageaient des Indiens pour passer les principaux guets. Encore qu'ils eussent préféré s'entendre avec les insectes, ces derniers connaissant des tunnels sûrs et confortables. Mais les insectes ne pouvaient pas ou ne voulaient pas communiquer avec nous. Aussi étions-nous obligés de nous farcir ces sauvages cayuses qui ne cherchaient qu'à nous contrer dans notre progression. Et parfois, après que notre fidèle Tonto nous eut conduit jusqu'au fleuve et déclaré « Vous, traversez ici !» et que nous l'eûmes remercié d'une prise de tabac, d'une poignée de perles et d'une bonne claque sur le dos, les eaux boueuses se révélaient plus profondes qu'il n'y paraissait. Le chariot était emporté par le courant et allait s'écraser sur les rochers. L'obusier était balayé et les mules manquaient de périr noyées. Mais il était alors facile d'abattre le peu rouge en question, blam, afin de rétablir l'équilibre moral de l'univers, et aller de l'avant, toujours de l'avant. Les chariots durent contourner quantité de précipices escarpés, mais les plus coriaces finirent par atteindre le pays de l'or, ça oui. D'autres ne trouvèrent que de l'argent, et la grande masse dut se contenter de déterrer les vestiges rouillés des chopes espagnoles ou de hangars à autodafé. Des villages de fortune jaillirent de partout, comme des toasts d'un grille-pain électrique. Nous repassâmes par les pistes que nous avions tracées et enfîmes de larges routes de rondins, et nous établîmes des postes de péage tous les 50 kilomètres. Les immigrants continuaient d'arriver, comme Narcissa Prentice Whitman, une des premières femmes blanches à avoir traversé les Rocheuses, le raconte dans son journal, quel ne fut pas l'étonnement des pauvres Indiens. Une ou deux générations de ces voyageurs suffirent à préparer le terrain pour les globes bleus. Leur mission historique était accomplie. Les héros de nouvelles et implacables industries s'aventuraient dans nos déserts d'or et de feu. Là où, entre 1870 et 1890, les fous de l'or avaient dressé leur bruyante cité bivouac pour les démonter quelques semaines ou quelques mois seulement après leur installation, ne laissant derrière eux que des empreintes de pieds, des bornes de pierre ou des boîtes de conserve écrasées ayant contenu l'aliment narcopathique ambulatoire du docteur Dodger. vinrent les professionnels solitaires. Ces hommes, sur lesquels reposait tout le destin de notre jeune république, n'étaient pas des réactionnaires pour rire. Leur but avoué et sincère était de nous déloger. Munis de sacs de farine et de grenailles de plomb, ils divisèrent les terres en zones d'investigation, chaque zone embrassant 13 secteurs, et chaque secteur étant géré et assaini avec zèle, conformément aux droits de son propriétaire, l'assainissement des territoires allant de pair avec les sentiments naturels de l'esprit supérieur. Il arrivait parfois qu'un voyageur solitaire, un hors-la-loi, un arpenteur, rencontre un de ses seigneurs accroupi au détour d'un fleuve, en train, par exemple, de soulever des pierres pour y trouver quelque éclat précieux. Le nouvel arrivant faisait un signe de tête, portait la main à son chapeau à la mode de l'Ouest pour saluer, et entreprenait de défaire son havresac dans l'intention de lui proposer un bout de chic, ne sachant pas encore à qui il avait affaire. Aussitôt, un fusil à canon lisse, un empereur ou un terrier, faisait son apparition sur les genoux du propriétaire de la rivière, sans que ce dernier prenne la peine de l'en menacer ouvertement, précaution inutile en ces temps subtils où toutes les armes à feu étaient chargées. Mais le message était clair. « Dégage de ma terre, pauvre cloche! Et t'as pas intérêt à me traîner des mocassins quand j'aurai compté jusqu'à 3, ni à mollir du jarret avant d'être à perpète vu que ce cours d'eau là, et c'est ta Marie, et cette vallée là-bas d'où jaillissent des étincelles entre les rochers, et tous les cours d'eau après le col et les montagnes à l'horizon, sont désormais sous le haut contrôle des réactionnaires. » Là-dessus, mes amis, le voyageur se mordait la lèvre. « Bonjour chez vous !» resserrait les sangles de son havresac et continuait son chemin, les yeux baissés, pendant que le grand homme restait au milieu de son cours d'eau tel une araignée sur sa toile à écouter s'estomper le tintement des pierres sous les pas de l'intrus. On avait alors l'habitude de ces faux départs qui cachaient une ruse. Non que les embuscades fussent aussi fréquentes qu'on aurait pu le croire. Certaines précautions étaient prises pour les éviter. Les réactionnaires ne possédaient pas encore d'alarmes électroniques de type sentinelle, mais ils construisaient toutes sortes de pièges et de chausse-trappes aux abords de leur campement. Si le voyageur préférait tendre une embuscade à ce chien vorace plutôt que de passer son chemin à la gamelle vide, il contournait la corniche qui donnait sur la rivière. Après avoir gravi la pente, son propre fusil à la main, il arrivait sur un petit lit à sec envahi par les buissons qui l'amenaient sur l'autre versant de la corniche, d'où il pouvait faire feu sans risquer de se faire voir. Tout en foulant, sans le savoir, les squelettes de ses prédécesseurs, car une herbe grise et drue avait poussé un peu partout, il gardait la tête basse et se rapprochait de plus en plus du bord de la corniche. Il ne lui restait plus alors qu'à écarter les branches d'un mesquite pour avoir une vue dégagée du campement. Au moment même où il repoussait le branchage, il entendait le claquement d'une corde qui se détend et le déclic d'une pointe qui se libère, puis une flèche dont la tête était garnie d'hameçons l'atteignait en pleine tête. Les intrus surent très vite reconnaître leurs erreurs. De nos jours, grâce à l'esprit d'initiative du grand homme, nos déserts regorgent de capteurs solaires, d'autoroutes et de vendeurs de tacos. De paisibles motels surgissent tous les 50 kilomètres. Vous ne risquez plus, après avoir franchi les salants presque à court de carburant, de tomber sur des stations-service dévastées par les pilleurs, d'apercevoir une fumée noire s'élever de ce qui fut autrefois un snack et de deviner, dans la lueur rouge sang qui monte des pompes incendiées, le pompiste scalpé près des toilettes. Non, ma chérie, ces choses-là n'arrivent jamais. Et le paysage technologique est d'un or encore plus brillant que la peinture sociale que je viens juste de brosser à ton attention.
Muskrat, oh muskrat, what makes you smell so bad? Laying around the farmer's house, eating up all he had. Eating up all he had, eating up all he had, boys, eating up all he had.